Bretagne 5. Écoutez la Bretagne.
Voix au chapitre. Evelyne Jobin.
Bonjour, bienvenue dans Voix au chapitre. Je vous propose aujourd'hui la 7e partie de Celle que vous croyez, roman de Camille Laurence. Si, il a laissé passer un jour ou deux, pensant probablement que le temps allait éroder ma décision. Et il avait raison, j'attendais désespérément sa relance. Puis il m'a adressé un dernier message, un message qui lui ressemblait entièrement, à la fois calme et passionné, humble et sûr de lui. Il me disait avoir la certitude que nous étions faits l'un pour l'autre, que nos destins étaient liés par l'amour, mais aussi qu'il respectait ma décision, qu'il en était très malheureux, mais qu'il l'acceptait, qu'il s'effacerait de ma vie si c'était ce que je souhaitais, qu'il ne m'écrirait plus, ne m'appellerait plus. Peace and love, c'était ses derniers mots. J'ai fait un immense effort sur moi-même pour ne pas le rappeler. J'ai fantasmé une scène où je lui avouais tout et où il m'aimait quand même, mais je n'y croyais pas. Je me sentais insuffisante et mon orgueil ne pouvait pas risquer le coup fatal. Je me regardais longuement dans le miroir, je me disais « impossible ». Je ne pouvais pas rivaliser avec la beauté de Katia. Et puis, aurait-il supporté tant de mensonges ? Alors j'ai tenu bon dans mon silence, aidé en cela par un voyage que j'ai fait juste à ce moment-là, un colloque sur Flaubert au Brésil. J'y suis partie sans mon ordinateur et sans mon second téléphone. Ces 10 jours ont été atroces. C'était une mue terrible, douloureuse. Redevenir Claire Milcam, agrégée de l'université, divorcée, parent isolé, mère de 2 enfants. Quitter Claire Antounèche et le bonheur d'aimer et la joie d'être aimée, m'en débarrasser comme d'une vieille peau, la belle Claire, une vieille peau, horrible dilemme. Quand je suis rentrée, j'étais à bout. Je me suis précipitée sur mon téléphone. Aucun message. J'ai ouvert mon ordinateur. Rien dans ma messagerie. J'ai voulu aller sur la page de Chris. Elle avait disparu. Complètement disparu. Son nom n'apparaissait plus nulle part et sur mon mur, toute trace de son existence, ses likes, ses posts avaient été effacés. Seuls mes messages privés étaient encore lisibles sur Messenger. Il avait été plus fort que moi, plus radical, ai-je pensé. Et j'ai souffert qu'il ait eu cette force, que cette force ait été plus puissante que son amour. En même temps, j'étais non pas soulagée, non. Le poids était trop lourd, mais relevé de mon devoir de renoncement. Je n'avais plus à me battre, puisqu'il n'y avait plus d'ennemis, sinon un ennemi impuissant, moi-même. Je n'ai pas pu renoncer tout de suite, malgré tout. J'ai rappelé, mais la communication ne passait pas, j'étais rejetée, je ne pouvais même pas déposer un message. J'ai aussi cherché à joindre Jo pour avoir des nouvelles indirectement. Mais Jo faisait le mort. Je pensais qu'il était reparti à Goa ou ailleurs, peut-être plus loin, peut-être avec Chris. J'ai attendu plusieurs semaines avant de résilier mon forfait de téléphone et finalement je l'ai fait. Enfin, j'ai coupé le dernier pont en supprimant la page Facebook de Claire Antounèche et j'ai repris mon ancienne vie comme on referme un roman. Meurtrie, terrassée, vieille. Non ? Ou peut-être un peu ? Il n'était plus ma dupe. Mon imposture disparaissait devant la puissance que je lui prêtais, que j'ai toujours prêtée à tous les hommes, souvent avec raison, celle de rebondir, d'oublier, de tourner la page. Alors qu'une femme livre un combat permanent pour ne pas être victime, pour rester forte, ou au moins digne. Je ne vous demande pas si vous avez lu « Les liaisons dangereuses », je suis sûre que non. La marquise de Merteuil écrit à Valmont : Pour vous autres, hommes, les défaites ne sont que des succès de moins. Dans cette partie si inégale, notre fortune est de ne pas perdre et votre malheur de ne pas gagner. Pour un homme, il y a toujours une autre femme possible, toujours une de retrouver, au moins une. Cette certitude est gravée dans leur structure, que la femme aimée n'est pas la seule femme. C'est ce que je croyais, vous comprenez ? À mes yeux, il sortait finalement victorieux du combat que j'avais toujours dominé. Non. J'ai vu un psychiatre pour qu'il me donne des somnifères, c'est tout. Bon an, mal an, je continuais à vivre, vous savez. Je n'avais pas perdu, c'était déjà beaucoup. Mes enfants me trouvaient plus triste qu'avant, c'est tout. La joie était partie avec Chris, c'est tout. Je m'abrutissais de travail. Je comparais les conjonctions « mais » dans les poèmes d'amour de Ronsard et « but » dans ceux de Shakespeare. Non, je l'ai su un mois plus tard. Peut-être plus ou moins, je n'ai plus la notion du temps. Un jour, je regardais par désœuvrement ma page Facebook, la mienne, la vraie, celle de Claire Milcam, où il ne se passait jamais rien. Et j'ai vu que j'avais un message. C'était Jo, très aimable. Il me demandait de mes nouvelles, me disait qu'il pensait toujours à moi. « T'as le temps de prendre un café ?» demandait-il. J'ai accepté. Il n'avait pas changé, toujours aussi, mais je m'en moquais. Je n'ai pas pu attendre plus de 5 minutes avant de lui demander d'un air faussement négligent s'il habitait toujours à Lacanau avec son copain. Comment déjà, Christian, Christophe ? Chris, a-t-il répondu joyeusement. Mais il n'est plus de ce monde, figure-toi. Alors qu'il est, il bouffe les pissenlits par la racine, ce bouffon. J'ai eu la sensation que j'allais perdre connaissance. Tout mon sang s'est retiré de mon cœur. J'ai entendu ma propre voix s'étouffer comme dans du coton et dire « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Chris est mort ? Qu'est-ce qu'il... » Ouais, il a fait le con. Sa déesse est entrée dans un arbre à 150. C'était pas joli à voir. Mais c'est arrivé comment, l'accident ? Je retenais mes larmes, tant bien que mal, tandis que Joe continuait du même ton guilleret. Bah, c'était pas un accident. Il s'est balancé exprès dans le décor. Suicidé, le coco. Suicidé ? Depuis un moment, il était en plein coltard. Il pleurait même, des fois. Une vraie loque. Et d'après les keufs, il n'y avait pas une trace de freinage sur la route. Tout ça à cause d'une pétasse qui l'a fait marcher pendant des mois. Marcher, que dis-je ? Courir, galoper. Ramper, bouffer des pierres. Il y a vraiment des salopes. Quoi ? Qui ? Je tremblais, je n'arrivais plus à respirer. Quoi ? Quoi qui ? A dit Jo. Ouais, une meuf rencontrée sur Mythique ou Facebook, je sais plus. Elle s'appelait Claire, comme toi. Et j'ai bien raison de me méfier. Il était tombé fou amoureux d'elle. Elle n'arrêtait pas de lui balancer la carotte au bout du bâton. Et quand elle l'a largué, il est devenu complètement à la masse. Il savait pas quoi faire de sa peau. Se traînait comme une âme en peine. Et en fin de compte, il s'est foutu en l'air. Pour une sale pute qu'il avait même jamais vue en vrai. Plus envie de vivre. L'amour, ça rend trop con, déjà qu'il n'était pas bien malin. C'est pour ça, moi, t'as remarqué, l'amour, j'évite. Non. Peut-être. Non. Laissez-moi.
Je ferme les yeux, nous imaginons. Là, nous deux, entrelacés, les bras séchés par l'amour, l'amour de l'autre. Je rêve, je rêve, oh oui, je rêve. Je ressasse nos souvenirs que le temps tente désespérément de détruire. Se glisse un sourire et des larmes au coin de mes yeux. Comment penser l'avenir, penser hier en guérir. Oh, je rêve, je rêve, je rêve, oh oui, je rêve. Je rêve, je rêve, je rêve que tu es là. Moi Je rêve, oui je rêve. Je rêve, mais tu n'es pas. Non, non, tu n'es pas vraiment là. Je sens dans ma poitrine mon cœur qui s'arrête. Je rêve et je fais mine de n'avoir pas senti passer cette réalité qu'endormie, tu resteras, mais plus jamais à côté de moi. Je rêve, je rêve, ah, je rêve, ah oui, je rêve. Je ne fais que rêver, imaginer ton devenir. Si seulement t'avais laissé le temps de le construire. J'ai tant aimé t'aimer, je ne cesserai de le faire. Pour de la mort n'empêche pas de rêver. Alors je referme les yeux et je rêve. Je rêve. Je rêve que tu es là. Je rêve, oh oui, je rêve. Je rêve, mais tu n'es pas. Non, tu n'es pas, pas vraiment là. Je rêve.
Voix au chapitre, Evelyne Jobin.
Audition du docteur Marc B. Je sais parfaitement pourquoi je suis là devant vous, chers confrères. Je n'ai pas l'intention de me dérober à ma responsabilité. J'assume et accepte par avance toutes les sanctions que vous prendrez contre moi. Mais il est indispensable, avant de me juger, que vous compreniez parfaitement les tenants et aboutissants de l'affaire qui nous amène ici aujourd'hui. Certes, vous avez tous lu le dossier de Madame Claire Milcam. Certains d'entre vous l'ont rencontré bien avant moi. Et sans doute ma situation de nouveau dans l'établissement et mon peu d'expérience en général ne sont-ils pas étrangers aux erreurs que j'ai commises. Cependant, il y a un texte dont j'aimerais vous donner lecture. Un texte de quelques pages, qu'aucun de vous ne connaît, j'en suis sûre, qui éclaire différemment, du moins je le crois, la décision que j'ai prise en toute bonne foi, indépendamment des conséquences. Il s'agit d'un extrait du roman qu'a écrit Claire, ici, à l'atelier d'écriture, au fil des semaines. Plus précisément, il s'agit de larges fragments rédigés de la deuxième partie de ce roman, dans laquelle elle imagine ce qu'aurait été sa vie avec Chris si elle avait osé, sans lui avouer l'imposture initiale, tenter d'avoir avec lui l'histoire d'amour qu'elle sentait possible, dont elle rêvait. En le lisant, j'ai pensé à ce que dit Lacan. L'aventure survient dans l'imaginaire. Elle me l'a confié à l'issue de nos premiers entretiens, je ne la trahis donc pas, pas complètement, en vous le lisant, et cette lecture me semble indispensable pour pénétrer dans l'esprit de Claire et pour tenter, en la comprenant mieux, de me comprendre aussi. Claire Milcam, Les fausses confidences, roman. Ce que je veux raconter, c'est une histoire d'amour qui est toujours possible, même lorsqu'elle se présente comme impossible aux yeux des gens qui sont loin de l'écriture, l'écriture n'étant pas concernée par ce genre du possible ou non de l'histoire. Marguerite Duras, Les yeux bleus, cheveux noirs. Je ne pouvais plus m'ôter Chris de la tête, j'y pensais tout le temps. L'idée que rien n'aurait jamais lieu entre nous m'était insupportable. Rompre, c'était comme renoncer à vivre. Après tout, cet homme me plaisait follement. Il m'aimait, il me le déclarait, alors pourquoi abandonner ? Nos destins étaient liés. Il me le répétait, il en était sûr. Pourquoi ne pas le vérifier ? J'étais comme dans un film où il n'est pas pensable de supprimer les scènes cruciales. Il m'avait écrit qu'il rentrait bientôt de la cano, la cohabitation avec Jo devenant pénible. Je compatissais en silence, comment ne l'aurait-elle pas été ? « Ah bon ? » avais-je écrit, « que s'est-il passé ?» En fait, Jo refusait de laisser Chris travailler sur le reportage à Goa. Il avait même détruit une partie des vidéos et clichés effectués là-bas. Et puis sa famille arrivait pour les vacances. Chris avait déjà pris son billet de retour. Il rentrait un lundi, 3 semaines plus tard. Il espérait me voir enfin. C'était le moment de tenter ma chance. Je décidai donc de le rencontrer en vrai, moi, Claire Milcam. On verrait bien ce qu'il adviendrait de l'amour. Pour cela, je devais éliminer Claire Antounèche, au moins la faire disparaître du champ de Chris, sinon de son souvenir. Je réfléchis aux meilleurs moyens de libérer la place de cette rivale virtuelle pour qui j'éprouvais par bouffée une sorte de jalousie viscérale, indicible, un sentiment d'impuissance face à sa jeunesse, à sa beauté. Il n'y a pas de pire rivale que celle qui n'existe pas. Je ressentais à son encontre ce que doit éprouver la sœur d'un enfant mort à l'égard de ses parents. La certitude que dans leur cœur, elle ne triomphera jamais de cet être idéal. Ma nièce Katia, qui languissait dans un hôpital psychiatrique après sa tentative de suicide, n'absorbait qu'une partie de mon agressivité. Certes, c'était de son image que Chris était amoureux, mais c'était par ma faute. Et je la savais si amochée par sa dernière histoire d'amour ratée, que je ne pouvais projeter sur elle mon inexcusable rancœur. Le meilleur moyen d'éloigner Claire Antounèche, c'était encore qu'elle s'éloigne. Je décidai donc de la faire partir à l'étranger, et comme je lui avais donné à bon escient un nom portugais, elle partit s'installer à Lisbonne. Ce n'était pas vraiment un coup de tête, expliqua-t-elle à Chris dans un message tendre mais ferme. Simplement, ses parents, qui vivaient là-bas, lui avaient trouvé un job intéressant, mieux payé que son CDD d'esclave. Et comme ça n'allait plus très bien avec Gilles, elle partait pour faire le point. « Je serai peut-être revenue dans quelques mois, » disait-elle. « Et même si nous ne nous voyons jamais, je t'aimerai toujours, » écrivait-elle en guise de conclusion. Je ne lui faisais pas fermer définitivement la porte, pressentant que j'aurais sans doute envie ou besoin de la rouvrir un jour. Chris me répondit qu'il était très triste, vraiment malheureux, mais qu'il m'attendrait. Il pouvait aussi venir me voir à Lisbonne après tout. Il n'avait pas d'obligation à Paris, rien qui le retienne. Il ne connaissait pas le Portugal, la lumière devait y être sublime, le paradis pour un photographe. Il avait même tracé l'itinéraire idéal pour un voyage en déesse par les petites routes, rêvant sur les noms des villages traversés, Zambugo, Picoto, c'était si joli. Il espérait que je l'inviterais à venir me rejoindre, ce que je ne fis pas, et pour cause. Ce départ à l'étranger m'arrangeait aussi en ce qu'il m'obligeait, par souci évident d'économie, à interrompre nos conversations téléphoniques. Je voulais qu'il oublie ma voix afin de pouvoir lui parler quelques semaines plus tard sans risque d'être démasqué sous mon autre identité. Mais je n'étais pas très inquiète. D'abord, on n'entend pas de la même façon une voix au téléphone et une voix en présence. Et puis pour découvrir une chose pareille, il faut pouvoir l'imaginer. J'entrepris de mettre en scène notre future rencontre. Fallait que ce soit naturel, comme si le hasard se chargeait de devenir un destin. Pas question de l'accoster sur Facebook ou grâce à un intermédiaire, je voulais jouer différemment, être unique. Par chance, il m'avait donné son heure d'arrivée en gare de Montparnasse le lundi 12. J'allais l'attendre au bout du quai, J'étais certaine de le reconnaître, même parmi la foule. Il m'avait envoyé plusieurs photos de lui. Et puis il était grand, avec cette couleur spéciale de cheveux, rare chez un homme, un châtain tirant sur le roux, les cheveux au burn. Normalement, il serait seul. J'imaginais qu'il prendrait le métro puis le RER pour rentrer à Sevran. Et c'était là, dans une rame, assise en face de lui, que je lui parlerais, que nous ferions connaissance. Avant cela, j'avais 3 semaines pour me préparer. Je voulais être belle, sans un cheveu blanc, sans un kilo de trop, sexy et rassurante à la fois. Je voulais être aimable, je voulais être aimée. Voilà, à présent, nous sommes lundi, il n'y a pas foule dans le métro. Je m'assieds en face de lui, j'ai 48 ans, mais je ne les fais pas. Il lève les yeux, me regarde, je lui souris. Il déplace ses jambes, me sourit aussi, tristement. Il doit penser toujours à la belle envolée. Je laisse passer une station, le temps de retrouver un semblant de calme. Il est beau, avec une certaine noblesse dans le visage, des yeux gris, verts d'une couleur rare. Mais il a l'air fatigué, presque amer, qui le vieillit. Et pas mal de cheveux gris parmi sa rousseur. J'en éprouve une douce satisfaction. D'abord parce que la différence d'âge est ainsi presque imperceptible, j'en suis sûre. Ensuite parce que j'ai désormais une mission. Je vais rendre cet homme heureux. J'ai peur pourtant, je n'ose pas agir. Mais comme je crains qu'il ne descende, je feins de le regarder avec acuité et je lui dis « Excusez-moi, j'ai l'impression de vous connaître. » « Vous ne seriez pas un ami de Joe ? Vous êtes photographe, non ?» Comme il a tout son matériel dans une sacoche ouverte sur ses genoux, j'ai un peu l'air idiote. Mais il lève les sourcils avec étonnement. « De Joël S ?»« Oui, pourquoi ? Vous le connaissez ?»« Je suis Claire Milcam, son ancienne, enfin une ancienne amie. »« Ah oui !» fait-il sur la réserve. Joe a dû lui parler de moi en termes strictement sexuels, et ce souvenir le gêne, l'entrave. Ou bien est-ce mon prénom qui lui rappelle douloureusement son amoureuse perdue ? Je m'en veux soudain de l'avoir donné à ma rivale, quelle sottise, quel manque de perspicacité. Mais c'est peut-être le contraire après tout. C'est peut-être grâce à ce prénom que je vais pouvoir entrer dans son imagination, moi aussi. Je continue. « On ne se voit plus, Joe et moi, on est brouillés. Mais vous, vous habitez avec lui, je crois. »« Plus maintenant, on est brouillés de fraîche date, mais bien, dit-il, bien fâché. » Et il a un sourire de discrète connivence. « Joe se brouille avec tout le monde, on pourrait fonder un club. » Il se tait, me regarde avec beaucoup de gentillesse, l'équivalent visuel de ses premiers messages, courtoisie, humour, curiosité retenue. Je crains que, pour ces raisons mêmes, il n'en reste là. J'enchaîne donc assez vite. Il m'avait envoyé des selfies de vous deux. C'est comme ça que je vous ai reconnu. Et une fois, il m'a montré des photos que vous avez faites, qui m'ont beaucoup plu d'ailleurs, des paysages, des vues de vos voyages. Vous faites aussi des portraits ? Je veux dire, vous photographiez des gens ? Il rit. Oui, oui. Pas seulement des baobabs et des pandas géants, des gens aussi. Je lui explique en balbutiant que je termine un essai sur Marguerite Duras et que mon éditeur va avoir besoin d'une photo pour la presse. D'habitude, il m'envoie le photographe avec qui il travaille. Je peux lui demander de changer, si ça vous intéresse. Bien sûr que ça m'intéresse. Pour être honnête, je cherche du taf, je n'ai plus une thune. Ce serait très cool. Il me regarde, plus scrutateur, appréciateur. Et en plus, ce serait très agréable. Tu veux qu'on le fasse quand ? Je rougis, non du compliment, mais du tutoiement. C'est comme s'il posait sa main sur moi. J'éprouve aussi la chaleur de la jalousie devant son aisance à lier connaissance, à être de plein pied avec l'autre, dans une simplicité confiante. Je pense à toutes les femmes de Facebook, à toutes les femmes du métro, du train, à toutes les femmes dans toutes les rues. Je ne sais pas. Tu es à Paris ? Non, je loge à Sevran, chez mes parents, provisoirement, j'espère. Mais je viens quand tu veux, avec ma vieille déesse. Comme ça, on peut aller faire des prises à la campagne. Ça changerait. Sauf si tu préfères l'éternelle pose de l'auteur assis au flore, le menton dans la main. Je ris, je secoue la tête. Alors, it's a deal. Je lui demande son numéro de téléphone. Il prend le mien. Ah, je descends là. Je t'appelle, dis-je pendant qu'il rassemble ses affaires. C'est cool, dit-il. Heureux de cette rencontre. À très vite. Et il descend. Je le vois s'éloigner, sac au dos, sur le quai. Au moment où la rame repart, j'aperçois dans une poubelle métallique une rose sous cellophane. Tragicomique dans son vase imprévu. Est-ce un mauvais signe du destin ? Je n'y pense même pas. Je crois que je lui plais. J'attrape dans la vitre noire mon reflet aux yeux perses. Oui, je lui plais. C'était Celle que vous croyez, roman de Camille Laurence, que vous pouvez trouver chez Gallimard en collection NRF ou Folio. Lors de la pause musicale, nous avons écouté « Je rêve » de Zao de Sagazan dans l'album « La symphonie des éclairs ». Cette émission a été produite par Frédéric Guyon. Pour la suite de ce texte, je vous donne rendez-vous dimanche à 18h02 ou en podcast et je vous souhaite une agréable semaine.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.